Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France.
Υπεραγία Θεότου και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε, των δυσχέρων και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών μεταράτους η προσβολέ, πολλής αθυμίας εμπυπνώσε μου την ψυχή, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τη του Υιού και Θεού.
Merci Jean-Luc Fournet d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc titulaire depuis le 7 janvier 2016 de la chaire Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Alors nous allons faire connaissance avec vous et avec votre étrange discipline, discipline d'ailleurs récente qui n'avait jamais été représentée d'ailleurs jusque-là au Collège de France. C'est quand même une petite énigme. J'aimerais bien savoir comment un jeune homme qui fait au fond des études assez classiques, j'ai vu que vous étiez agrégé de lettres classiques, normalien, etc., peut à un moment donné choisir de s'intéresser à la papyrologie byzantine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment c'est venu ?
Effectivement, ça paraît très étrange. Il m'arrive souvent de me demander comment j'ai pu arriver à embrasser cette discipline. En fait, c'est quand je porte un regard rétrospectif sur mon enfance, mon adolescence, les choses sont pas si étranges que ça. J'ai été mordu par le virus de l'égyptologie en lisant un très mauvais livre, comme beaucoup de jeunes, sur les mystères des pyramides. Et dans le primaire, j'ai décidé de devenir égyptologue. Ce n'est pas si facile que ça de devenir égyptologue quand on est un collégien à Bordeaux. Parce qu'en fait, à Bordeaux, il n'y a pas à l'université de filière d'égyptologie. Et lorsque j'étais en troisième, ma mère se demandait ce qu'il fallait que je fasse, des mathématiques ou du français, des langues. Comme tous les parents, elle souhaitait que je m'engage dans la filière des mathématiques. Et on a décidé d'aller à Paris se renseigner auprès d'égyptologues. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean Leclan, qui était professeur au Collège de France.
Mais oui, qui a fait un très très beau dictionnaire sur l'Antiquité.
Voilà, sur l'Antiquité.
Qui était d'ailleurs, je crois, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Exactement.
Un homme tout à fait magnifique et passionnant.
Voilà, et il m'a reçu dans son bureau. Moi qui étais en culotte courte, il m'a dit, voilà, vous devez faire l'école normale supérieure. Je lui ai dit, mais j'aimerais apprendre les hiéroglyphes. Il m'a dit, vous allez acheter la grammaire de Gardiner. C'est une grammaire en anglais avec des exercices. Vous m'enverrez vos exercices, je vous les corrigerai. Enfin, voilà. Alors, il se trouve qu'il n'avait pas le temps de le faire. Il a demandé à un de ses assistants, qui était bibliothécaire à la bibliothèque du Collège de France, de faire ce travail. Et donc, pendant des années, j'ai commencé, comme ça, à apprendre les hiéroglyphes. Donc, j'étais vraiment prêt pour m'engager dans une carrière d'égyptologue. Mais j'ai été mordu par un second virus, qui est le grec.
Mais vous êtes conscient de la générosité extraordinaire.
Mais j'en ai souvent parlé.
Que ça représente
après avec
de
lui.
La part de d'un si grand maître au fond.
C'est quelque chose d'important. Et quand je vois certains collègues qui disons, sont réticents à recevoir des jeunes ou des parents. Mon fils est passionné, il souhaiterait vous rencontrer, etc. Il y a des collègues qui ne sont pas toujours prêts à le faire. Je dis que non, c'est une erreur. C'est pour ça que j'essaie d'avoir ma porte la plus ouverte possible. Et dans le passé, il m'est arrivé aussi de faire des conférences devant des collégiens. Parce que je pense que, surtout quand on enseigne une discipline comme la mienne, qui n'est pas une discipline extrêmement visible, je pense que c'est très important de pouvoir avoir accès à des jeunes. Et le CNRS m'avait demandé il y a quelques années justement de faire une conférence devant un public de jeunes de 5e, 4e. Je me suis dit, mais comment vont-ils recevoir une discipline comme la papyrologie? Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas aussi passionnant a priori que l'égyptologie. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout à fait réceptifs et qu'il ne fallait absolument pas hésiter à avoir ce type de discours vers les jeunes. Voilà, c'est pour ça que c'est une des leçons que cet entretien avec Jean Leclan m'a donné.
Belle leçon. Parlons de ce deuxième virus, alors, le grec.
Le grec, j'ai fait du grec, j'allais dire comme tout le monde, non, malheureusement, comme de moins en moins de monde. À partir de la quatrième, j'ai eu la chance de pouvoir faire du grec très tôt, c'est-à-dire j'ai fait du grec comme première langue morte, à la place du latin. J'étais dans un collège qui me permettait de le faire. Et tout de suite, ça a été un choc. J'ai adoré cette langue. Et je n'ai eu de cesse ensuite d'essayer de réconcilier les deux, le grec et l'Égypte. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre où cela m'amenait. Mais en fait, lorsque j'ai passé le concours de l'école normale supérieure, je l'ai fait, il n'y a pas de filière égyptologique, donc je l'ai fait dans la filière lettres classiques. J'ai passé ensuite l'agrégation de lettres. J'ai fait une maîtrise sur les emprunts du grec à l'égyptien. Ces mots que les Grecs ont empruntés à l'égyptien. Et donc déjà, j'ai pu, d'une certaine façon, réconcilier ces deux domaines. Et j'ai pu avoir un contact avec cette problématique extrêmement intéressante qui est celle du multilinguisme.
D'autre part, Jean-Luc Fournet, il y a eu toujours des liens très forts. Bon, Cléopâtre, par exemple, était grecque. Enfin, on peut dire qu'elle parlait grec avec son amant Antoine.
C'était sa langue maternelle.
C'était sa langue maternelle, la langue de la culture. Et au fond, il y a toujours eu des rapports très forts entre les Grecs et les Égyptiens. Mais peut-être que vous pourriez nous donner juste un exemple pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train de nous dire. Un mot grec qui viendrait d'Égypte.
Mais figurez-vous qu'il y en a, un certain nombre dans la vie de tous les jours. Vous utilisez une gomme. Eh bien, le mot gomme vient de l'égyptien. Vous utilisez, par exemple, dans le domaine de la faune. Évidemment, ibis, qui est un oiseau dont on connaît le nom, c'est un mot égyptien. Il y a un certain nombre de termes, pas simplement des termes, disons, de la faune et de la flore égyptienne, parce qu'en fait, lorsque les Grecs sont arrivés en Égypte, ils ont dû mettre un nom grec sur des réalités qui leur étaient absolument pas familières. Donc, ils ont été amenés ainsi à emprunter des vocables égyptiens pour pouvoir nommer ces réalités non grecques. Mais vous avez aussi des produits qui ont été ensuite exportés dans le monde grec et qui sont rentrés un peu dans l'univers, si je puis dire, de la culture occidentale. Le mot papier, par exemple, le mot papier est un mot qui vient directement d'égyptien.
Ça vient de papyrus.
Ça vient de papyrus, mais le mot papyrus lui-même est un mot égyptien, hein, qui veut dire... Alors, l'étymologie a été très longtemps sujette à discussion, mais le mot veut dire « celui du roi », parce que probablement on avait affaire à une culture qui était sous monopole royal. Voilà. Donc, le roi contrôlait la fabrication du papyrus, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom de « celui », c'est-à-dire le matériau du roi. Voilà. Et ensuite, lorsque les Grecs sont arrivés en Égypte, il a fallu évidemment donner un nom à ce produit. Ils ont utilisé un nom égyptien. Alors, les Grecs sont arrivés en Égypte avec Alexandre, c'est-à-dire au 4e siècle avant. Oui. Contrairement à ce qu'on pense,
ils sont arrivés aussi en Inde, partout, voilà, avec Alexandre. Au fond, Alexandre a conduit la Grèce dans
exactement
le monde entier,
il a répandu politiquement, il a conquis un certain nombre de, de pays, mais il a répandu surtout la culture grecque et la langue grecque.
Oui.
Donc ces pays sont restés ensuite, sont devenus des royaumes, ce qu'on appelle les royaumes hellénistiques. Donc il y avait le royaume des Ptolémées en Égypte, hein, jusqu'à Cléopâtre. Et la langue officielle était le grec. Contrairement à ce qu'on pense, on pense que Cléopâtre était une reine égyptienne. Et comme vous l'avez rappelé, non, c'est une reine grecque qui parlait grec.
Mais c'était
et qui était à la tête d'un royaume qui était évidemment égyptien. Et donc, il y a eu cette, j'allais dire antagonisme, non, mais cette cohabitation linguistique qui a duré plus d'un millénaire.
Et du côté de l'Indus, il y a eu aussi ce genre de choses, d'ailleurs.
Tout à fait, oui. En Syrie-Palestine, c'est la même chose. Enfin, tout l'Orient s'est hellénisé et resté grec très longtemps, jusqu'à l'époque byzantine. Voilà. Donc, c'est le problème du multilinguisme est quelque chose de très fort et j'ai eu la chance finalement de rencontrer cette problématique très jeune lorsque j'ai fait ce mémoire de maîtrise. Le problème, c'est que j'ai vite fait le tour de ces emprunts dans la mesure où les Grecs ont toujours été rétifs à l'emprunt. Les Grecs étaient assez colonialistes d'un point de vue
Ils imposaient
leur langue, ils ne s'intéressaient pas à la langue des autres. Bon, il a fallu malgré tout qu'ils gèrent la coexistence d'autres langues que la leur dans les pays qu'ils ont conquis. Bon, donc j'ai vite compris en fait que ce problème de l'emprunt ne me permettait pas de faire ensuite une thèse, etc. Et donc j'ai cherché désespérément, j'insiste bien sur le terme désespérément, parce que c'est vrai que ça a été, quand on rentre dans le domaine de la recherche, quand on est un jeune qui finalement n'a fait que du bachotage jusqu'ici, c'est pas évident d'arriver à se repérer dans ces nouveaux domaines, dans ces nouvelles disciplines qu'il découvre. Et donc j'ai mis un certain temps à comprendre que la seule discipline qui me permettait à la fois de concilier l'Égypte et le grec, eh bien c'était la papyrologie. Alors la papyrologie, je n'avais jamais entendu parler de la papyrologie à cette époque. Il m'a fallu du temps pour rentrer dans cette discipline dont le nom est un peu exotique. Mais j'ai compris effectivement que c'était un domaine où il y avait énormément de choses à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de papyrus inédits. Et donc, si je voulais à la fois réconcilier hein, ces deux centres d'intérêt qui ont toujours été les miens, mais aussi apporter quelque chose de neuf, ne pas répéter ce que les autres ont dit, eh bien, il fallait que j'embrasse la papyrologie.
Alors, Jean-Luc Fournet, c'est une science tout de même très récente, qui date du 19e siècle, je crois. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu de cette discipline que nous ne connaissons pas non plus, enfin, que nous découvrons grâce à vous. Puisque, au fond, on sait ce que c'est qu'un papyrus, mais on sait aussi que beaucoup de gens se servaient jusqu'à présent des papyrus pour faire du feu, et que énormément de papyrus ont disparu.
Malheureusement, oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu où est-ce qu'on en est, comment cette discipline a évolué, comment est-ce qu'elle a été, au fond, redécouverte ou découverte, et puis ce qu'on possède exactement, avec quoi vous travaillez?
Alors peut-être que je devrais définir ce qu'est la papyrologie dans un premier temps, parce que ce n'est pas si évident que ça. On pourrait dire la papyrologie, c'est la science des papyrus. Bon. Ben, en fait, ça serait une définition extrêmement vague et réductrice. La papyrologie, en fait, c'est l'étude de tous les documents qui sont écrits à l'encre sur des supports amovibles, en langue grecque et latine.
Alors, c'est ce qu'on trouve quand on est archéologue, au fond.
Exactement. Mais alors, justement,
votre collègue, Monsieur Brun, appelle des ostracas, c'est ça?
Alors voilà, les ostracas font partie, justement, des documents qu'étudie le papyrologue. Donc, ce qui est très important dans la définition que je viens de donner, c'est support amovible ou support souple, certains disent.
Transportable.
C'est-à-dire support transportable. Donc, du coup, d'accord, vous voyez tout de suite que ça s'oppose à l'épigraphie. À l'épigraphie, où évidemment, les textes sont écrits
sur de la pierre,
sur des supports qui normalement sont non ou difficilement amovibles. Bon, alors que la papyrologie, en fait, étudie des documents qui sont transportables. Alors, quel type de support est utilisé? Eh bien, évidemment, le papyrus, hein, c'est celui qu'on connaît le plus, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont du ressort du papyrologue. Vous avez parlé des ostracas. Donc un ostracone, pluriel ostraca, en fait, ce sont des tessons de poterie Des amphores, par exemple, qu'on cassait une fois que l'amphore avait été vidée. On cassait l'amphore et on réutilisait les tessons de poterie pour écrire.
Donc vous devez travailler avec Monsieur Brun.
J'ai fouillé avec lui pendant plusieurs années dans le désert oriental, dans une région où, du fait des conditions climatiques, on n'a pas trouvé de papyrus, mais en revanche, on a trouvé des ostracas. Et des ostracas par milliers, par milliers. Donc ça, c'est le second support, après le papyrus, c'est le second support le plus utilisé. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Les tablettes de bois, par exemple, constituent aussi un support amovible qui est étudié par le papyrologue. Les tablettes de bois, par exemple, eh bien, il faut savoir qu'à l'école, le support utilisé par les jeunes écoliers d'Égypte, c'était précisément les tablettes de bois. Alors les tablettes de bois pouvaient être soit cirées, c'est-à-dire on mettait une couche de cire et on utilisait un stylet pour écrire dessus, soit tout simplement recouvertes d'une espèce de gypse et on écrivait à l'encre dessus. Bon, donc vous avez les tablettes et puis vous avez aussi le parchemin, qui est un support bien connu, et puis quelquefois aussi des supports tout à fait inattendus comme les omoplates de chameau. Et oui, on a utilisé des omoplates de chameau.
Ah, c'est bien.
Parce que c'est un os qui est assez plat. Et lorsque la chair, lorsqu'il s'est bien nettoyé, on a quelque chose de bien blanc, bien plat. Et on peut utiliser dessus. C'est un support qui a été utilisé au tout début de l'époque arabe en Égypte. Donc
vous,
voilà.
Vous voulez dire, Jean-Luc Fournet, que l'humanité a toujours cherché des supports pour écrire, au fond.
Mais
ça,
oui,
ça c'est
oui,
très bon.
Exactement. Et lorsque l'homme n'est pas en mesure de trouver le support qui est, disons, le plus utilisé pour l'écriture, c'est-à-dire le papyrus, eh bien, il fait marcher le système D et il trouve d'autres solutions. Donc on a toutes sortes de supports qui est utilisé. Évidemment, le support numéro un, celui qui était utilisé le plus, c'était le papyrus. Et les Grecs l'ont très vite compris, puisque les Grecs, dans l'Athènes du VIe siècle, on a commencé à vouloir mettre par écrit les grandes œuvres de la littérature, comme Homère, eh bien, on s'est tourné vers l'Égypte et on a importé des rouleaux de papyrus parce que c'était le support qui était considéré comme le plus approprié pour conserver l'écrit. Et donc, dès le VIe siècle, et surtout au Ve, on voit déjà des importations de papyrus à destination de la Grèce. Donc, avant même que les Grecs aient envahi au IVe siècle avec Alexandre l'Égypte, ils étaient en contact avec ce pays et ils étaient eux-mêmes utilisateurs de papyrus.
Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'Arlequin, chose insensée. Ils connaissent tout l'univers, de son droit, de son envers, changeant en un grand palimpseste la voûte céleste. Ils collectionnent les papyrus qu'ils lisent parfois dans l'autobus quand ils vont au marché aux bus acheter de l'embrun russe. Ce sont des intellectuels qui se retrouvent dans des chapelles. Que se disent-ils, que se disent-elles? Des choses profondes. En discutant, ils se méfient de toutes les grandes philosophies. Aucune vraiment ne leur suffit, âme vagabonde. Arrive la confusion des langues, l'évocation du Big Big Bang. Alors tout tourne dans ses tangues, en fin du monde. Le soir au fond de leur maison, sans trop savoir en quelle saison, tout en buvant une tisane, ils pensent qu'ils sont des ânes. Sont des intellectuels.
Jean-Luc Fournet, est-ce que vous pouvez nous décrire un papyrus?
D'abord, il faut partir peut-être de la fabrication du papyrus. Vous avez tous vu des papyrus. Alors, il faut faire attention parce que ce qu'on a tendance à appeler papyrus, souvent, c'est du faux papyrus. Le vrai papyrus, si vous allez au jardin des plantes, vous en avez de beaux exemplaires. Ce sont des tiges assez épaisses. Hein. C'est une ombellifère. Des tiges assez épaisses. On peut même arriver à une épaisseur qui correspond à celle d'un bras, par exemple.
Donc, ce ne sont pas des feuilles?
Non, on on ne fait pas le papyrus avec la feuille. D'ailleurs, si vous regardez bien la feuille du papyrus, en fait, ce sont des espèces de fils, de filaments qui retombent. On peut rien faire avec. Donc, en fait, on utilise la moelle du papyrus. Donc, on incise la tige et on retire la moelle, on tronçonne la moelle, on en fait des espèces de petites lamelles, et on met les lamelles les unes à côté des autres, et puis ensuite on fait un second lit de lamelles perpendiculaire au premier, et on aplatit tout cela. Et avec la sève de la moelle, en fait,
ça
colle parfaitement.
D'accord.
Ça colle parfaitement, et on obtient une feuille. Et ensuite, ces feuilles sont collées, cette fois-ci avec de la vraie colle, les unes aux autres, et on obtient un rouleau. Et avec ce rouleau, on peut faire toutes sortes de choses. On peut écrire des œuvres comme l'Iliade et l'Odyssée sur des rouleaux de plusieurs mètres. On peut aussi découper dans un rouleau un feuillet juste pour écrire une lettre à un ami. Et voilà.
Et on écrit avec quoi ?
On écrit avec de l'encre. On écrit avec de l'encre. L'encre, on a plusieurs types d'encre, soit à base de charbon, hein, l'encre carbonique, soit à base de noix de galle. On appelle ça les encres métallogalliques. Voilà.
Alors, ensuite, on enroule le papyrus.
Alors, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. S'il s'agit d'écrire, par exemple, un contrat ou une lettre, vous allez juste découper dans le rouleau le feuillet dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi écrire la totalité du papyrus. Et donc, ensuite, le papyrus est enroulé et stocké sur des étagères avec une petite étiquette qui tombe et qui donne le titre. Parce que lorsque vous êtes dans une bibliothèque avec tous ces rouleaux, c'est pas facile de se repérer, hein. C'est pas comme des livres dans une bibliothèque moderne avec le titre qui est apparent. Donc, il fallait trouver un moyen de donner le titre et le rendre visible. Donc, on utilise une petite étiquette de papyrus, hein, qui est attaché avec une ficelle sur le rouleau et qui tombe et qui donne le titre de l'œuvre. Alors, le papyrus ne se conserve pas en milieu humide. Donc, dès qu'il y a de la pluie, il n'y a pas de papyrus. Ce qui explique qu'on n'ait pas trouvé de papyrus en Grèce, alors que la Grèce, depuis le VIe siècle, était consommatrice de papyrus. Les seuls papyrus qu'on ait trouvés en milieu humide, ce sont des papyrus qui ont été carbonisés, c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'état de végétal à l'état de minéral. Voilà. Donc, il se trouve qu'on a trouvé en Grèce un papyrus orphique extrêmement ancien d'Hervény qui a été conservé. Et évidemment, le grand exemple de papyrus trouvé dans un endroit autre que l'Égypte, c'est Herculanum en Italie, où là, on a eu la chance de découvrir une bibliothèque philosophique, tous les rouleaux qui constituaient cette bibliothèque, mais malheureusement, ces rouleaux avaient été carbonisés.
Est-ce qu'on peut les lire? Comment
Alors,
est-ce qu'on peut faire?
Depuis le 18e,
comment ça se passe?
Depuis la découverte, effectivement, de cette bibliothèque au 18e siècle, on a essayé de développer des techniques permettant de dérouler, en fait, ces morceaux de charbon. Et on y est arrivé. Avec beaucoup de difficultés, beaucoup de rouleaux malheureusement ont été cassés, ont été détériorés à jamais, mais on a inventé une machine, un certain Poggio avait inventé une machine qui permettait de dérouler les papyrus. Ça prenait du temps, quelquefois des années, mais il est arrivé à dérouler quelques-uns de ces rouleaux, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait une bibliothèque tout à fait exceptionnelle, qui était la bibliothèque d'un philosophe, et bibliothèque grecque. Hein, il s'agissait de textes en langue grecque, hein, vous l'avez dit, le grec est la langue de la culture, donc les Romains utilisaient le grec, lisaient des écrits grecs, et la philosophie était considérée par les Romains comme une discipline par excellence grecque. Voilà. Donc c'est un des seuls exemples, il y en a d'autres, mais disons un des exemples les plus significatifs de conservation de papyrus en milieu humide, sinon il faut le dire, 90 ou 95% des papyrus ont été trouvés en Égypte et depuis quelques décennies aussi dans tout le Proche-Orient. Hein, on a fait des découvertes dans le Moyen-Euphrate de papyrus. Mais globalement, à plus de 95%, la papyrologie est une discipline, j'allais dire, égyptienne. Beaucoup de papyrus ont disparu à tout jamais, mais heureusement, on continue à trouver encore énormément de papyrus. Quand je dis papyrus, hein, Attention, hein.
Plus Ostraca, etc.
Plus Ostraca, etc. Il suffit de donner un coup de pelle dans le sol égyptien sur un site archéologique pour qu'on trouve du papyrus, des Ostraca, etc. L'Égypte est encore un pays extrêmement fertile en découvertes. Et là, je voudrais continuer un petit peu la définition que je vous ai donnée de la papyrologie. J'ai fait d'abord une définition, j'allais dire matérielle, de la papyrologie, mais il faudrait peut-être aussi... Alors, j'ai dit aussi que le papyrologue s'intéressait aux textes en grec et en latin. Lorsque il a affaire à des papyrus écrits en égyptien, en copte, en arabe, il laisse ça à ses collègues égyptologues coptisants ou arabisants, et on parle dans ce cas de papyrologie égyptienne, démotique, de papyrologie copte ou de papyrologie arabe. La papyrologie, sans autre adjectif, c'est la papyrologie grecque et latine. Donc la papyrologie qui couvre toute la période pendant laquelle l'Égypte a utilisé le grec et accessoirement le latin, c'est-à-dire du 4e siècle avant Jésus-Christ, conquête d'Alexandre, jusqu'à la conquête arabe, arabo-musulmane, dans les années 642, où là, l'Égypte passe sous joug arabe, mais le grec continue à être utilisé pendant à peu près un siècle. Et donc, on peut dire qu'à la fin du 8e siècle, le grec va disparaître. Donc, c'est pendant cette période, 4e siècle avant, fin du 8e siècle, que l'Égypte utilise le grec, et donc que l'on trouve des papyrus, au sens large, en grec. Mais quel type de papyrus? Parce qu'en fait, vous avez deux types de papyrus. Vous avez les papyrus littéraires, c'est-à-dire les livres de l'Antiquité, l'équivalent des livres que nous avons sur les étagères de nos bibliothèques, des auteurs. J'ai parlé d'Homère tout à l'heure. Donc ça, c'est la papyrologie littéraire qui est étudiée surtout par des philologues ou par des historiens de la littérature. Et puis, vous avez l'autre domaine qui est quantitativement le plus important, qui est la papyrologie documentaire, c'est-à-dire les documents de la vie de tous les jours, les papiers d'affaires que les gens conservaient chez eux, écrivaient, conservaient, les lettres, les contrats, toutes les reçus d'impôts, puisque la fiscalité est quelque chose d'extrêmement important dans l'Antiquité. Elle est toujours chez nous, mais elle a généré une bureaucratie... absolument incroyable. Et donc, tous ces documents qui sont de la vie de tous les jours constituent ce qu'on appelle la papyrologie documentaire et sont étudiés, disons, plus par des historiens. Donc, vous voyez, il y a deux domaines qui éclairent, en fait, deux aspects de la vie des anciens, la vie culturelle d'un côté et puis la vie, le quotidien des individus de l'autre.
La vie religieuse, elle se situe à la fois d'un côté et de l'autre.
Évidemment, parce que vous pouvez avoir des textes littéraires religieux.
Pratiques quotidiennes.
Et puis vous pouvez aussi, dans une lettre, vous pouvez avoir des informations sur tel individu, par exemple, qui est allé au temple faire quelque chose, ou à l'époque chrétienne, tel autre qui s'est retiré dans un monastère. Donc c'est extrêmement intéressant de saisir, à travers les papyrus documentaires, la vie de tous les jours. Et c'est là que la papyrologie offre un regard qui est un petit peu différent de celui des inscriptions. Les inscriptions ont quelque chose de plus normatif, c'est-à-dire qu'elles présentent l'individu dans ce qu'il a effectivement de plus normatif, alors que les papyrus nous offrent des informations qui correspondent, disons, au vivant, au vécu des individus. Et quelqu'un a même dit que les inscriptions montrent l'homme tel qu'il voulait se montrer, alors que les papyrus montrent l'homme tel qu'il était. Voilà, et c'est toute la différence. Il faut absolument étudier les deux. Quand on étudie une civilisation, il faut absolument étudier les deux. Les deux sont tout à fait complémentaires. Mais malheureusement, on a trop tendance à oublier qu'il faut faire l'un et l'autre.
Jean-Luc Fournet, votre chaire s'intitule « Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine ». Où est passée Byzance dans cette affaire ?
Alors, effectivement, la période byzantine est une des périodes sur cet arc temporel dont je vous ai parlé, qui va du 4e avant jusqu'au 8e après. Eh bien, vous avez la période byzantine ou l'Antiquité tardive qui commence. Alors, il y a des discussions pour savoir quand on fait commencer l'Antiquité tardive. On va dire que c'est avec Constantinople, c'est avec Constantin
oui,
après
sûr.
Dioclétien, ouais. disons, mm-hmm. que on peut faire
donc,
commencer
donc
l'Antiquité
tardive. Donc le christianisme.
Tardive. Voilà. Mais le christianisme a commencé avant. On
oui,
a
enfin,
des
témoignages.
On a des témoignages.
Disons,
voilà, exactement. Voilà. La christianisation d'État. On a des témoignages plus anciens du christianisme, mais beaucoup plus sporadiques et souvent isolés. Alors voilà. Donc à partir du 4e siècle. On voit dans la société effectivement quelque chose qui change. Les institutions changent. On a le christianisme qui devient religion d'État et qui va évincer petit à petit les cultes dits païens. Donc quelque chose se passe aussi du point de vue de la culture. C'est pour ça que j'ai voulu mettre dans l'intitulé de ma chaire le terme de culture écrite au centre, parce que il se passe quelque chose pendant l'Antiquité tardive. On voit une révolution, à la fois dans le contenu des textes, mais aussi dans la forme des textes. Et moi, je suis extrêmement attaché à la forme des textes. C'est l'enseignement, je dirais, numéro un de la papyrologie, puisque les papyrus nous donnent à voir des productions originales. Grâce aux papyrus, on peut toucher les livres, on peut toucher les écrits des anciens. On peut voir comment le rapport qu'ils avaient à l'écrit et au livre. Et que nous disent ces papyrus d'Antiquité tardive ? Ben d'abord, que... une révolution s'est produite avec l'invention du codex. J'ai parlé tout à l'heure de rouleau, qui est effectivement la forme habituelle sous laquelle on manufacturait et on achetait du papyrus. Le problème du rouleau, c'est que c'est pas pratique. Lorsque vous voulez recopier les 24 chants de l'Iliade ou de l'Odyssée, il vous faut des mètres et des mètres de rouleau. Lorsque vous voulez aller contrôler le vers 40 du chant 12, il vous faut dérouler, etc. C'est pas pratique
oui,
du tout.
Oui, des kilomètres, en fait.
Voilà.
Oui.
Or, on est dans une société où on a besoin d'avoir un accès à la culture rapide, un accès aux livres sacrés, puisque finalement, le christianisme, c'est quoi ? C'est une religion du livre. Et donc, il faut pouvoir aussi aller contrôler les références de façon aisée. Et donc, c'est répandu... le codex qui n'est pas une invention chrétienne, contrairement à ce que on écrit trop souvent.
Alors qui invente le codex ? Ça vient
Le codex, ce sont les Romains qui
c'est les Romains,
inventé.
Oui,
ce sont
bien
les,
sûr.
Ce sont les Romains qui l'ont inventé.
C'est les pragmatiques.
Voilà, exactement. Et alors le codex, c'est quoi ? C'est tout simplement le livre, l'invention du cahier ou du livre, c'est-à-dire le rouleau est coupé en feuillets, les feuillets sont mis les uns sur les autres. On plie tout cela et on coud et on a l'équivalent d'un livre moderne, notre livre moderne.
Paginé,
et tout simplement,
c'est ça qui est
et qu'on pouvait paginer, effectivement,
voilà.
Notre livre moderne est né du codex. Le codex, c'est une révolution. C'est une révolution parce que ça a modifié complètement le rapport à l'écrit, ça a modifié complètement les habitudes de lecture, puisque là, vous pouviez tourner les pages et vous pouviez rechercher aisément un texte, vous n'aviez pas à faire d'acrobatie en déroulant les rouleaux. Et donc, on peut dire que le codex a été quelque chose d'extrêmement important. Or, il se trouve que c'est au 4e siècle que le codex détrône le rouleau. Alors, c'était d'abord un codex sur bois, hein. Et puis, avec le papyrus, on a transformé les pages de bois en pages de papyrus. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire c'est le principe de quelque chose dont on tourne les pages. C'est un objet dont on tourne les pages, dont on peut numéroter les pages. Donc la pagination ou la foliotation est quelque chose qui est apparu aussi avec le codex. Et donc le codex a eu une importance capitale à évincer le rouleau. Et on s'est mis à utiliser le codex pour... écrire ce que l'Antiquité avait livré de textes littéraires. Les écritures changent aussi à cette époque. C'est pendant l'Antiquité tardive et le début de l'époque byzantine qu'on invente la minuscule. Or, la minuscule, c'est l'écriture que nous utilisons encore de nos jours. Vous voyez, donc, on se rend pas compte que pendant des siècles et des siècles, les anciens lisaient des ouvrages dont les mots étaient collés les uns aux autres. Et puis vous avez des accents, comme vous avez des accents dans beaucoup d'autres langues ou écritures, plus exactement. Eh bien, les accents, pendant très longtemps, n'ont pas été notés. Dans l'écriture continue, on notait pas les accents. Alors, vous allez me dire, c'est pas très embêtant. Mais si, parce qu'en fait, l'accent permet de prévenir des mécoupures de mots, de prévenir des ambiguïtés, des erreurs qu'on pourrait faire. Et donc, l'accent, d'une certaine façon, permet de rendre un texte plus lisible. Alors, du coup, en inventant une écriture plus petite, avec des traits pertinents qui montent et qui descendent et qui permettent de rendre l'écriture beaucoup plus lisible en l'embrassant du regard, eh bien, on avait aussi la possibilité d'insérer des esprits, des accents, d'insérer des blancs avant et après les mots. Et donc, on est arrivé donc au système qui est celui du Moyen-Âge et qui est toujours celui que nous adoptons actuellement, c'est-à-dire d'une écriture en minuscule, hein, avec un système de majuscules en début de... Quand ça, c'est arrivé un petit peu plus tard, un système de majuscules en début de phrase, et puis des blancs entre les mots. Voilà. C'est aussi une invention, je dirais, de cette époque. Donc, il y a eu, pendant l'Antiquité tardive et début de l'époque byzantine, il y a eu véritablement une révolution dans le monde de l'écrit, dans le monde de la culture, qui s'est traduite à la fois au niveau de la matérialité des ouvrages, au niveau de la forme des écritures, etc.
Et donc aussi au niveau de leur contenu.
Au niveau de leur contenu, alors...
Qu'est-ce qui change pendant cette période? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Jean-Luc Fournet?
C'est une période extrêmement intéressante parce que c'est une période charnière qui explique ce que nous savons de l'Antiquité. Parce qu'il ne faudrait pas croire que les textes grecs ou latins que nous sommes capables de lire aujourd'hui nous ont été transmis selon un processus continu, sans rupture de continuité, pas du tout.
De toute façon, il nous en manque beaucoup.
Il nous en manque beaucoup, et en fait, tout ça, ces disparitions, j'allais dire, se sont faites à cette époque. C'est-à-dire, c'est une époque où on a fait des choix. On s'est demandé, dans la culture des anciens, que va-t-on garder, que va-t-on abandonner?
Alors, c'est très important ce que vous êtes en train de dire là, Jean-Luc Fournet, parce que ça veut dire, si on vous entend bien, que l'Antiquité qu'on a aujourd'hui, la représentation de l'Antiquité qu'on a, le savoir qu'on a sur l'Antiquité, c'est celui que, à cette époque, par exemple, on a voulu laisser.
Tout à fait, vous avez entièrement raison. Nous n'avons de l'Antiquité que des miettes. Les auteurs que nous avons, ce sont des auteurs qui ont été transmis pas toujours correctement et que nous lisons dans un texte qui est, dans un certain nombre de cas, bien différent de celui de l'auteur lui-même. Et donc, c'est tout le travail de la philologie. Le travail de la philologie, c'est l'étude des textes. La philologie, c'est cette discipline qui consiste à aller regarder les textes, à essayer, par exemple, quand on fait une édition d'un texte comme... je parlais d'Homère, prenons cet exemple, le texte d'Homère, c'est d'aller regarder tous les manuscrits qui nous ont transmis cet auteur et d'essayer de voir finalement où il y a des fautes qui sont des fautes de copistes, et où est la bonne leçon, c'est-à-dire le bon texte qui pourrait remonter à l'auteur.
Qui pourrait.
Alors dans le cas d'Homère, c'est extrêmement compliqué parce que Homère n'a pas mis par écrit, il y a même... tout un tas de discussions pour savoir si Homère a vraiment existé, etc. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais nous avons des auteurs plus récents qui ont mis par écrit leur œuvre, mais cette œuvre ensuite a fait l'objet d'une transmission. C'est-à-dire que un texte qui nous est parvenu aujourd'hui, c'est un texte qui a été copié, recopié sans cesse, sans aucune rupture de continuité. Et malheureusement, eh bien, vous avez à certaines époques, des moments où des textes n'ont plus été lus et donc n'ont plus été recopiés pour toutes sortes de raisons. Ça peut être des raisons de mode, ça peut être des raisons de modification de goût dans la société. Donc
de culture, de religion.
Il est évident que lorsque le christianisme s'est imposé, eh bien, il ne faut pas croire que le christianisme a tout de suite évacué cette culture païenne ou cette culture profane. Je préfère utiliser le terme de profane. Pas du tout. Hein. Un certain nombre de pères de l'Église ou de chrétiens importants connaissaient parfaitement leur dette vis-à-vis de la culture grecque. Ils savaient que pour faire passer aussi leurs idées, il fallait savoir convaincre, il fallait connaître la rhétorique, il fallait connaître tout ce qui faisait partie de cette éducation, de cette païdéia, comme disent les Grecs, profane. Mais il a fallu faire des adaptations. Et donc il y a des auteurs qui, petit à petit, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé comme cela, qui petit à petit sont sortis, tout simplement, du goût. Et qui, à partir du moment où ils n'étaient plus recopiés, disparaissaient. Et c'est là que les papyrus, d'une certaine façon, nous apportent quelque chose. Parce que les autres textes qui ont été copiés, recopiés, etc., après le 5e, 6e siècle, ont, pour un certain nombre d'entre eux, nous sont parvenus. Mais tous les autres. Et pendant très longtemps, c'est-à-dire finalement jusqu'au 19e, nous ne connaissions de ces auteurs perdus que les citations que l'on trouvait dans les auteurs qui, eux, n'avaient pas été perdus, qui avaient été conservés. Mais lorsqu'on a commencé à fouiller les sables de l'Égypte, et lorsqu'on a commencé à découvrir des papyrus qui dataient d'avant ces choix, d'avant ces sélections, eh bien, c'est tout un patrimoine littéraire qui a ressuscité.
Magnifique.
Et donc, la papyrologie, d'une certaine façon, permet d'aller au-delà de cette césure qui s'est créée hein, dans la transmission de la culture et d'aller voir ce que les anciens ont pu, à un certain moment, dans une certaine zone qui était l'Égypte, lire.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, Jean-Luc Fournet ?
Par exemple, Aristophane, qui est le comique grec par excellence. Nous avons un certain nombre de pièces d'Aristophane qui nous sont connues, qui ont été conservées. Mais Aristophane est un auteur qui, pendant un certain nombre de siècles, n'était pas à la mode, n'était pas lu. À l'époque romaine, on préférait Ménandre. Ménandre, un autre comique, plus tardif, qui avait complètement rejeté dans l'ombre Aristophane pendant un certain nombre de siècles. Et donc, on a énormément de papyrus, de Ménandre, qui nous ont été conservés. Mais à un certain moment, c'est précisément au IVe, Ve siècle, eh bien, le goût a changé. Ménandre est passé de mode, et on s'est remis à lire Aristophane et à recopier Aristophane. Et il se trouve que, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le choix qui a été fait à la période dont je parlais tout à l'heure a consisté à garder Aristophane et à faire disparaître Ménandre. Et c'est pour ça que, au XIXe siècle, j'allais dire pendant toute l'époque moderne, à partir de la redécouverte au XVe siècle du patrimoine grec, on ne connaissait pas Ménandre. Nous ne connaissions de Ménandre que les citations qui avaient été faites par d'autres auteurs, mais nous n'avions aucune pièce de Ménandre. Et il a fallu que l'on commence à fouiller dans les sables d'Égypte pour redécouvrir des pièces de Ménandre. Et il se trouve que j'ai, il y a quelques années, j'ai consacré mon doctorat à un poète du VIe siècle qui avait dans sa bibliothèque un manuscrit de Ménandre, manuscrit qui a été découvert en 1905, lorsqu'on a redécouvert ses archives et sa bibliothèque en 1905, eh bien, dans une jarre, il se trouve que la jarre était bouchée avec un manuscrit de Ménandre. Ce manuscrit de Ménandre a été immédiatement publié dès 1905 et a permis au monde savant de redécouvrir quelques pièces de Ménandre, tant et si bien que la petite collection des ceux qui ont fait du latin ou du grec, plus exactement du grec à l'école, sauront de quoi je parle. La petite collection Hachette, ces petits classiques Hachette verts, eh bien contenait, il y avait un volume qui était consacré uniquement à Aristophane. Et après cette découverte, on a fait une nouvelle édition. Il s'agissait là des extraits d'Aristophane et de Ménandre. Et pour la première fois, eh bien, les écoliers ont pu, à l'école, apprendre du Ménandre grâce à la découverte de ce papyrus en 1905. Voilà, c'est un exemple parmi mille de ces changements de mode, de ces disparitions et de ces résurrections que la papyrologie met en lumière.
Jean-Luc Fournet, cette année, donc, votre cours s'intitule, c'est très beau, Babel sur le Nil, multilinguisme, multiculturalisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Quelle est l'époque que vous étudiez et quelles sont donc les multilangues et les multicultures?
Alors, l'époque, c'est celle justement de l'Antiquité tardive et début de l'époque byzantine, c'est-à-dire 4e, 8e siècle. C'est-à-dire l'époque où on a. Encore des papyrus grecs, puisqu'après le 8e siècle, les papyrus grecs disparaissent. Donc, j'ai décidé de commencer mes cours avec ce thème. Pourquoi ? Bien parce que culture écrite de l'Antiquité tardive, on ne peut pas étudier la culture écrite si on ne la remet pas dans le contexte du multilinguisme. Nous sommes des Français peu habitués au multilinguisme. Nous avons une langue d'État depuis très longtemps. Nous sommes dans un État centralisé et les autres langues sont suspectes. Mais si je dis ça, c'est parce qu'en fait, nous sommes dans une culture où le multilinguisme est quelque chose qui n'est pas évident et qui apparaît presque suspect. Ce n'était pas le cas des anciens. Le multilinguisme est quelque chose de normal. C'est même le monolinguisme qui est anormal. Et donc, je voulais... puisqu'il s'agit d'éclairer la culture de l'écrit, je voulais la replacer dans le contexte de ce multilinguisme, parce qu'on ne peut pas faire de l'histoire, on ne peut pas travailler sur des sources écrites sans savoir quelle langue pouvait être utilisée dans quelles conditions ou dans quel contexte. Car nous sommes à une époque où vous avez l'Égyptien qui est utilisé par la grande majorité de la population, qui devient le copte, qui adopte une nouvelle écriture, puisque les hiéroglyphes, le hiératique, le démotique sont des écritures qui disparaissent avec le paganisme et avec le christianisme. Une nouvelle écriture se développe, qui utilise tout simplement les caractères grecs pour noter cette langue égyptienne. On appelle ça le copte. Donc, vous avez le copte. Vous avez évidemment le grec, qui est la langue de l'administration. Mais vous avez aussi d'autres langues, comme le latin, qui a été sporadiquement introduit lorsque les Romains ont envahi l'Égypte, hein, au moment où Cléopâtre se suicidait.
L'hébreu, sans doute.
L'hébreu, dans des communautés extrêmement marginales.
À Éléphantine, par exemple.
Éléphantine, effectivement. Ouais. Et puis, vous avez des conquêtes qui ont introduit de nouvelles langues. Vous avez la conquête perse, ou la conquête sassanide entre 619 et 629, qui a, pendant 10 ans, introduit le perse, le moyen perse, qui est écrit avec une écriture extrêmement particulière qu'on appelle le pelvi. On a un certain nombre de papyrus pelvi qui ont été découverts, qui datent de cette période.
Hein.
Et ensuite, après l'arrivée des Arabes, évidemment, l'arabe, petit à petit, s'introduit dans l'administration, s'introduit dans la correspondance privée, etc.
Excusez-moi, mais une question personnelle, tout de suite, là. Vous parlez combien de langues? Vous déchiffrez combien de... de manuscrits.
Alors, moi, je suis surtout helléniste, latiniste, évidemment. On peut pas faire l'un sans l'autre. Mais j'ai fait du copte parce que j'ai considéré que on ne pouvait pas avoir un regard impartial sur cette culture si on n'embrassait pas les différentes sources écrites en différentes langues. Et donc, comme je m'intéresse à l'époque tardive, évidemment, il fallait absolument que je puisse utiliser de première main les sources égyptiennes, c'est-à-dire en fait les sources écrites en copte. Voilà. Donc
copte qui au fond reflète votre amour pour l'Égypte d'un côté, la Grèce de l'autre,
et qui me fait de temps en temps regretter ne pas être devenu un égyptologue. Mais finalement, je trouve cette période tout à fait fascinante, hein, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. C'est intellectuellement, culturellement, une période où se passe beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé des aspects administratifs aussi, mais évidemment, Dioclétien et Constantin, tout est réformé, tout est modifié, de nouvelles institutions sont mises en place, etc. Et les papyrus nous éclairent là-dessus. Mais là, je suis en train un petit peu de m'éloigner du sujet de mon cours. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où on a plusieurs langues qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées par la population, il faut savoir dans quel contexte une langue est utilisée et où ne peut pas être utilisée. Il faut savoir, par exemple, que un Égyptien ne pouvait pas utiliser l'Égyptien pour un contrat ou pour envoyer une pétition au gouverneur pour se plaindre de ce que son voisin lui avait fait. Il ne pouvait pas. Il était obligé nécessairement de passer par le grec. Donc, nous ne pouvons
pas...
Par la langue d'État. Nous ne pouvons pas utiliser correctement les sources écrites si nous ne savons pas, finalement, quelle est cette différenciation, cette répartition des langues dans la société. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu absolument... commencer les cours de cette nouvelle chaire de papyrologie et de culture écrite, j'ai voulu absolument commencer par le problème du multilinguisme. Sans compter que c'est aussi un problème, je dirais, qu'il y a des résonances dans notre société moderne. Ça rencontre une interrogation sociétale qui est très forte actuellement. Voilà, et qui correspond à des causes macro-sociales avec... la scolarisation de masse, avec l'immigration de masse, avec les nouvelles technologies aussi qui mettent les gens en contact avec d'autres langues, etc. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement, c'est une problématique extrêmement scrutée depuis des décennies, qui a poussé les linguistes à réfléchir sur ce problème-là. La sociolinguistique s'est développée effectivement aussi autour de cette problématique. Et du coup, ça a des répercussions dans le domaine de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on assiste depuis une quinzaine d'années à une recrudescence d'intérêt pour les problèmes de multilinguisme et de multiculturalisme à travers les sources antiques.
Oui, parce qu'on s'est aperçu, par exemple... que ce soit les immigrés d'origine chinoise, arabe ou d'Amérique latine, qu'il est très important que chacun garde sa propre culture et sa propre langue, mais adopte aussi le français pour s'intégrer, pour pouvoir échanger avec les autres, et en effet, écrire à l'État, payer ses impôts et avoir des contacts savants. Donc, au fond, on peut... Imaginez que ça fonctionnait un peu comme ça.
Oui, et ce qui est très intéressant d'ailleurs en regardant les sources écrites dans ces différentes langues, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas nécessairement de hiérarchisation. Il n'y a pas de jugement de valeur prêté à l'utilisation de telle langue par rapport à d'autres. Alors certes, vous avez la langue d'État, hein, qui est considérée comme la langue numéro un. Bon.
Mais il faut dire que les gens aient un principe unitaire qui leur permette de se comprendre.
Voilà. Enfin. Mais il n'y a pas nécessairement, et ça c'est très intéressant, on se rend compte qu'il n'y a pas de mépris pour la langue de l'autre. Que l'État a forcément utilisé le grec, mais qu'il acceptait dans certaines conditions que les autres langues soient utilisées et qu'il ne portait pas un regard méprisant sur l'utilisation des autres langues. Donc c'est plutôt la construction de différentes identités qui pouvaient se combiner d'ailleurs, puisque un individu n'est pas monolingue, je le disais tout à l'heure, il n'est pas monoculturel, hein, il pouvait avoir différentes cultures, différentes casquettes, avoir différentes langues qu'il utilisait dans certains contextes, et c'est cette mosaïque, hein, de contextes et l'articulation entre ces différents contextes que nous essayons de reconstituer à travers les textes et qui nous montre que il y avait une richesse qui était acceptée et qui ne correspondait pas nécessairement donc à un mépris ou à une indifférence pour les autres cultures. Bon, c'est ce que j'aimerais montrer à travers ces cours. J'aimerais porter un regard qui ne soit plus un regard monoculturel sur cette documentation. Trop longtemps, la papyrologie a été le domaine des hellénistes ou des latinistes. Nos collègues belges nous ont montré depuis des décennies un autre chemin à suivre, celui qui consiste à aller regarder, à faire dialoguer des sources dans des langues différentes. Et ce n'est pas parce qu'on est helléniste qu'il ne faut pas s'intéresser à la documentation égyptienne, copte en l'occurrence, ou démotique pour des époques antérieures, ou la documentation arabe. Au contraire, il faut combiner tout cela. Et je voudrais, quelque chose que je voudrais dire. Nous sommes dans un système français où, à l'école, à l'université, on n'est pas assez ouvert, je dirais, sur l'apprentissage d'autres langues. Moi, j'ai étudié évidemment le grec et le latin, en plus du français. Mais jamais on ne m'a poussé à étudier d'autres langues orientales. Or, c'est absolument nécessaire d'étudier, par exemple, je parlais du copte, je pourrais parler de l'hébreu, je pourrais parler de l'arabe, etc., du persan. Bon, je trouve que c'est une richesse auquel nos étudiants ne sont pas suffisamment introduits, invités. Et donc, je souhaiterais qu'on ait dans le système français, qu'on développe cette transdisciplinarité à partir du moment où évidemment elle se fait de façon intelligente. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de faire dialoguer des domaines, des savoirs qui peuvent enrichir la perception que nous avons d'un domaine, d'une documentation, d'une culture. Je crois que la papyrologie, comme d'autres sciences de l'Antiquité, a un message à nous transmettre. Le message numéro un, je dirais que c'est l'esprit critique. C'est l'esprit critique.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Jean-Luc Fournet, titulaire de la chaire Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter la leçon inaugurale de Jean-Luc Fournet. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.